comment ça marche. Voilà. Bonjour. Alors, juste pour ceux qui sont parmi nous pour la première fois, je ne suis pas le pasteur. Hein. Vous le regardez, il est là, derrière, il est le plus grand, vous ne pouvez pas le rater. Oh, il y en a deux grands, hein, mais lui, il est plus grand que l'autre. Pour ce matin, j'ai envie de méditer avec vous sur deux psaumes qui sont en fait un seul et unique poème. Psaume 42 et psaume 43. Et dans ce chant, ou dans ces deux psaumes, il y a une question qui s'est posée. Où est votre Dieu? En fait, ce psaume, ces deux psaumes, ou ce chant, où le compositeur est un des fils de Corée, qui était fait partie parmi ceux qui sont responsables des chants et de déroulement de ce type de service dans le temple de Dieu, on comprend qu'il a été exilé, déporté, probablement d'après le contenu de ces deux psaumes, dans le nord du pays, dans la source, où est la source du Jourdain, où il a souffert, il souffrait énormément. Il souffrait non seulement de mauvaises paroles qu'on le lui dit, ou de ce qu'il est loin de chez lui, loin de la maison de Dieu où il avait l'habitude de souffrir, mais il souffrait aussi de la moquerie de certaines personnes qui lui disaient « Mais où est ton Dieu ? Toi qui le sers, toi qui l'aimes, toi qui toute ta vie est consacrée à lui, où est-il? Pourquoi il ne vient pas te délivrer? Où est ton Dieu? Où est votre Dieu ?» Lisons-le ensemble. Au chef des chants cantiques des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéa. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et toutes tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, mon protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je le célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Où est votre Dieu? C'est la question à laquelle il a été confronté ce fils de Corée, ce chantre de la maison de Dieu. Pourquoi le choix de ces deux psaumes? Pourquoi ce matin, il est important pour nous, ou il serait utile, qu'on puisse regarder et méditer sur ce cantique, sur ce chant? Il y en a deux raisons à cela. La première, excusez-moi avant, il y en a deux raisons à cela. La première, je ne suis pas arrivé encore à la résoudre et à comprendre pourquoi. Le matin, quand je vais au travail, je mets la radio. Et très tôt, j'écoute. Et normalement, je mets une radio arabe qui, le matin, parle beaucoup, donc pour des chants folkloriques du Liban, de mon pays. Donc, à mon âge, un petit peu, ça me rappelle un petit peu ma jeunesse. Mais dès que le jour commence à se lever, là, c'est l'appel à la prière. Alors, normalement, les chants s'arrêtent et on passe un chant religieux, bon, musulman, bien sûr. Et puis, avant de commencer l'appel à la prière, avant de changer de station, je l'écoute parce que j'aime bien écouter pour savoir un petit peu ce que pensent les musulmans. Et ça me permet après de discuter, en parler sur le même sujet. Mais un jour, au lieu d'entendre ce que j'ai l'habitude d'entendre, des chants religieux musulmans, j'ai entendu ce psaume chanté. Exactement de la même manière, quand, lorsque j'étais à l'église, au Liban, je l'écoutais chanter. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir la messe? Et bien, après la fin de ce chant, non, ils ont switché, comme d'habitude, à l'appel de la prière. Et je n'ai pas du tout compris pourquoi ils ont mis ce cantique, que nous, on a l'habitude de chanter dans les églises. Ça ne m'est jamais arrivé, jamais vu. Et puis, comme je l'ai écouté, ça m'a rappelé un petit peu ma jeunesse et pourquoi en chanter ce chant. Et puis, je l'ai oublié. J'aurais pas dû. Et puis, il y a quelques semaines, Christine, ma femme, mon épouse, elle sait qu'on ne lit pas trop les calendriers avec les petits mots qu'il y a, la petite réflexion du matin. Alors, elle fait semblant, elle nous les laisse de côté à notre passage, pour que, par inadvertance, ou moi ou les enfants, on lit la pensée du jour. Et il y a quelques semaines, ce psaume est revenu. Et la personne qui parlait de ce psaume, elle avait une petite pensée que j'ai trouvée très, très pertinente pour moi, pour ma journée. Et là, je me suis dit, Simon, ça fait deux choses, ça fait deux fois. Là, il faut que tu reprennes ce psaume, ce cantique, et aller regarder qu'est-ce qu'il y a de particulier, d'important dans ce cantique. Et là, en le regardant, en essayant de le travailler, je me suis dit, non Simon, ce cantique, il faut que tu l'apportes en méditation, tellement il y a de la richesse dans ce cantique. Et vous allez voir une richesse bien différente de celle que, à première vue, on peut penser qu'elle va nous apporter en ayant une première lecture de ces deux psaumes. Alors, qu'est-ce qui est d'important? Qu'est-ce qu'il y a d'important et qui m'a motivé dans le choix de ces deux psaumes pour la méditation de ce matin? La première, déjà dans le titre. En lisant ce psaume, vous avez vu un titre. Psaume des fils de Corée. Mais en fait, ce n'est pas le seul titre dont a ce chant. Il y en a 13 cantiques, 13 méditations, 13 psaumes qui ont un titre particulier. Ce titre s'appelle Masquille. Un psaume de Masquille, qui veut dire un psaume de sage. Un psaume de quelqu'un de sage, quelqu'un de prudent. C'est aussi à la signification d'un enseignement. Donc en fait, le psalmiste, quand il a mis ce titre, ce n'était pas uniquement ses états d'âme qu'il voulait nous faire arriver ou faire comprendre, mais un enseignement qu'il souhaite apporter par ce cantique. Et il est vrai, quand on le regarde, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quelqu'un qui dialogue avec son âme. Bon, il y a 2000 ans, 3000 ans, on dit quelqu'un qui dialogue avec son âme. Aujourd'hui, on dit quelqu'un qui réfléchit à haute voix ou qui parle à lui-même. Quelqu'un qui dialogue avec son âme, avec lui-même. Mais c'est une personne comme vous et moi. Elle a la nature humaine telle que nous on l'a. Alors il va osciller entre le pessimisme et l'optimisme. Entre le désespoir et la confiance, entre la marche par la vue et la marche par la foi en un Dieu qu'il ne voit plus avec lui, alors qu'avant il le voyait avec lui. Avant il avait une marche par un Dieu visible dans sa vie, et aujourd'hui il ne voit plus rien, il ne voit que de la moquerie autour de lui et que de la souffrance. Alors il va souffrir physiquement parce qu'on l'outrage, il va souffrir moralement parce qu'on se moque de lui et il va souffrir spirituellement parce qu'il crie à Dieu, il le cherche et Dieu n'est pas là, il ne lui répond pas. Il ne répond pas, il ne le trouve pas. Trois types de souffrance qui se trouvent au fond de lui-même. Une souffrance physique, une souffrance morale et une souffrance spirituelle. Et c'est en cela qu'il est un enseignement pour nous. Parce qu'il va nous apprendre de quelle manière ce chantre, ce fils de Corée va se relever, va se rétablir de cet état qu'il était en lui, dont il a beaucoup souffert. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai souhaité apporter cette méditation, parce que dans notre vie de chrétien, et vous allez le voir, dans notre vie de croyant, plusieurs fois, bien des fois, on va être dans la même situation que ce psalmiste, que ce chantre des fils de Corée. Qui de nous ne s'est pas retrouvé dans un état inconfortable, de détresse, de sécheresse spirituelle, d'épreuves physiques et morales et même spirituelles bien des fois? Qui de nous, bien des fois, n'a pas eu l'impression qu'il a atteint les abîmes, qu'il a atteint les abysses du fond des océans? Qui de nous ne s'est-il pas comparé à Job et à tous les malheurs qui lui est arrivé? Qui de nous n'a pas eu la nostalgie du passé, où il était en pleine forme, où il était heureux? Et qui de nous n'a pas des fois expérimenté le silence de Dieu? Qui de nous n'a pas expérimenté l'incompréhension quand on se pose la question, mais mon Dieu, mon Seigneur, pourquoi Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Qui de nous ne l'a pas expérimenté? Qui de nous n'a pas crié vers le Seigneur les cris quand on n'a pas entendu ou qu'on a lu dans ce cantique qu'on vient de lire? Qui de nous n'a pas trouvé tard cette attente de la réponse de Dieu? Jusqu'au jour où peut-être ce n'est pas la question, la moquerie des gens qui nous entourent, qui nous dit « Où est ton Dieu ?» Mais nous-mêmes, on s'est posé la question « Mais où es-tu, mon Dieu ? Où es-tu ?» Dans ce psaume, c'est les autres qui se sont moqués de lui et qui lui ont dit « Où est votre Dieu ?» Mais n'y a-t-il pas eu des jours où nous-mêmes, on s'est posé cette question « Où es-tu, mon Dieu ?» Pourquoi ce silence? Si tu existes, si tu m'aimes vraiment, pourquoi tu n'agis pas? Où es-tu, mon Dieu? Et c'est dans la manière dont ce psalmiste va gérer ces questions, va gérer cet état où on va trouver l'enseignement pour nous ce matin. Alors allons-y et regardons les étapes du croyant dans l'épreuve. On va en trouver 4 étapes. Bien sûr, on peut en avoir plusieurs, mais essayons de les un petit peu résumer en 4 étapes. La première phase, c'est l'étape du croyant, l'état du croyant où on l'a subi. On subit cette phase. On n'en est pas maître. On a beau faire ce qu'on veut, on l'a subi. Et on s'incline, et on baisse, et on courbe notre dos. La première étape où nous-mêmes, on se sent où? Dans l'abîme. Dans les fonds. On touche les abysses du fond, complètement au fond du trou, ou au fond. Et là, on voit un petit peu exactement ce que dit le psalmiste. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, oui, ton Dieu, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi, mes os se brisent, mes persécuteurs m'outragent. Qui de nous n'a pas eu cet état un jour? Ah, on croit qu'il est pire que ce qui est arrivé à Job. Que sur nos épaules, c'est le malheur du monde entier, commence à se peser. Et on ne peut même pas se tenir debout, on est courbé. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes os se brisent, mes persécuteurs m'outragent. Tellement c'est dur, Seigneur, ce qui m'arrive. La deuxième, c'est l'état d'âme. Toujours dans cette phase. Et là, on se sent coupé de la présence de Dieu. On dit, mais comme une biche soupire auprès des courants d'eau, c'est la sécheresse, en français courant, la biche est loin, c'est l'été, le ruisseau est loin, et peut-être il n'existe pas parce que c'est l'été, parce que c'est une saison de chaleur, elle en soupire, elle ne peut, même si elle sait où est le courant d'eau, elle ne peut pas y aller, il n'y en a pas d'eau, c'est sec, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. On se sent coupé de cette présence de Dieu. On se sent oublié, ignoré. Le psalmiste dit, je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Oh là, je suis là. Pourquoi m'oublies-tu? Mais tu ne me regardes pas, tu ne vois pas ce qui m'arrive. Pourquoi m'oublies-tu? Et on ne s'arrête pas là, on peut même se sentir rejeté par Dieu. C'est une chose de se croire oublié par Dieu. On peut dire, ah ben, je vais lui prier, je vais crier à lui. Et là, il va se rendre compte. Il ne va plus m'oublier, il va me voir. Alors, je vais pouvoir lui parler et qu'il se rende compte de ce qui m'arrive. Mais là, c'est pire pour le psalmiste. Non seulement il se sent oublié, mais regardez ce qu'il dit. Toi, mon Dieu, pourquoi me repousses-tu? Repousser comme quelqu'un qui sent mauvais. Comme quelqu'un qu'on ne veut même pas à côté de lui. Il se sent comme Dieu le repousse. Pire que rejeter, pire qu'oublier. repoussé par Dieu. C'est comme ça qu'il se sent, le psalmiste. Bon. Excusez-moi. Quelqu'un peut appeler Philippe, s'il vous plaît. Je vais continuer sans ça. Tu peux chercher mon ordinateur. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, je vais continuer. On peut quand même prêcher sans ça. Hein? Par contre, là, je vais vous demander votre attention à pouvoir me suivre. Donc, on se sent repoussé par Dieu. On se sent même rejeté par Dieu. Et dans cette phase, on est désemparé. On ne sait plus ce qui nous arrive. On est complètement désemparé. La deuxième phase de la vie d'un croyant, c'est là où on commence à réagir. On va réagir à notre situation. Mais souvent, quand on réagit, la première réaction qu'on a après la première phase où on touche l'abîme, elle est un petit peu négative. Elle est un peu négative parce qu'on rejette la responsabilité sur Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention au passage biblique qui dit la chose suivante. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. En d'autres termes, le psalmiste est en train de rejeter sur Dieu ce qui lui arrive. Il est en train de dire à Dieu, mais tu y es le fautif. Si ce qui m'arrive, ça vient de toi. Nous, peut-être, on ne le comprend pas bien. Pour un oriental, Dieu est souverain. Tout ce qui peut lui arriver, c'est Dieu l'a voulu. Et la question ne se pose même pas. Tout ce qui peut nous arriver, cela vient de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit à Dieu, tes flots, tes vagues qui passent sur moi. Et cette incompréhension vient surtout de notre état, qui ne nous permet pas d'avoir les idées claires et de réfléchir. Elle ne nous le permet pas. Parce que vraiment, on a touché l'abîme, parce qu'on se sent complètement accablé par tout ce qui nous arrive. Ça, c'était la deuxième phase, la réaction. Je m'en occupe. Merci. Merci. Si les deux premières phases étaient des choses qu'on subit, ah, oui, ce que je voulais vous dire, je me suis désolée, c'est que même notre Seigneur sur la croix a eu cette manière de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a exactement la même réaction que bien des fois nous en a. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Philippe, je suis désolé. C'est ce que j'ai fait, Philippe. Alors, troisième phase, le raisonnement. On va essayer de se reconcentrer, s'il vous plaît. Hein? Surtout pour moi. La troisième phase, et c'est là où on va commencer à sentir quel est l'enseignement. Jusque les deux premières, je n'ai pas besoin de vous raconter beaucoup de choses. Tous, on a l'habitude de les vivre. Mais là, ça va différencier. Et là, la réaction du psalmiste, c'est là qu'il va être probablement différente de celle que nous, on a l'habitude d'agir ou de notre manière de réagir. C'est le raisonnement. C'est l'appel à la mémoire. En fait, le psalmiste va puiser dans sa mémoire pour s'accrocher et pour ne pas sombrer dans le désespoir ou dans la dépression. Il va se souvenir des bénédictions passées. Il va dire la chose suivante. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. La première chose, il ne faut pas se tromper. Le psalmiste n'est pas en train de puiser dans sa mémoire en disant « Oh, qu'il était bien le temps où j'étais avec mes frères, mes sœurs, devant le temple de Dieu en train de chanter, de le louer. Oh, que c'était bon le bon vieux temps. » Non. Non. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Les fêtes juives étaient, elles avaient des significations. Et elles rythmaient leur vie. Elles étaient là, pas pour faire la fête, pas pour être joyeux, pas pour chanter. Elles étaient là pour leur rappeler ce que Dieu, tout au cours de leur histoire, a fait dans leur vie. En d'autres termes, qui dit joie au milieu des cris de joie et des actions de grâce? Ils sont en train d'être contents tout en se rappelant comment Dieu les a sortis de l'Égypte par des miracles d'une puissante manière et qu'il leur a donné un pays où ils puissent vivre dans la liberté et plus dans l'esclavage. Et la fête, c'était pour rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait pour eux. Donc le psalmiste n'était pas en train de puiser dans sa mémoire les bons moments où ils en ont passé ensemble, joyeux, en faisant la fête. Non, il était en train de se rappeler la signification de tout ceci, tout ce que Dieu a fait dans sa vie, dans leur vie à eux. La puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il a réalisé dans leur vie? Ils commencent à se rappeler de cela. Et ce qui était dans le passé peut redevenir son expérience dans le futur. Et c'est ça ce qu'il est en train de se dire. Car Dieu reste son rocher. Il a connu la fidélité de Dieu conformément à l'alliance. Il était un homme de prière, de louange. Dieu a été sa vie. La mémoire va stimuler la prière et le relèvement. La mémoire va stimuler la prière et les relèvements. C'est un petit peu à la manière du chant, du cantique qu'on chante bien, « Compte les bienfaits de Dieu. Si le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » Qui de nous, aujourd'hui, peut dire « Mais je n'ai rien à me rappeler. Je ne me rappelle pas ce que Dieu a fait pour moi. Je ne me rappelle pas la bonté de Dieu en moi. » Qui de nous aujourd'hui ne peut pas dire ceci? Chacun de nous, Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Au moins, il a fait une chose. Il a envoyé son Fils unique mourir pour que nous en soyons sauvés. Et c'est déjà une chose énorme où on peut se rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie. Si je pose la question, je doute qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et me dire, moi, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Je ne peux même pas me rappeler sa bonté pour moi et ce qu'il a fait pour moi. Et c'est ce que le psalmiste est en train de faire. Il puise dans sa mémoire la force qui va lui donner de tenir dans les problèmes qu'il a, dans les souffrances qu'il a, physiques, morales et spirituelles. Le sentiment d'absence de Dieu ne doit pas paralyser ni la prière ni l'espérance. Dans le refrain, par trois fois, on voit le psalmiste qui dit « Je le louerai encore, je le louerai encore ». La quatrième phase, c'est le relèvement. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut qu'on en parle, non? D'après vous, il s'est relevé? Comment il s'est relevé? Ne répondez pas, parce que je ne veux pas être d'accord avec vous. Et comme ça, vous n'avez pas à regretter. Quand on parle de relèvement, on a l'habitude de dire, ça y est, il a repris comme avant. Un petit peu à la manière des autres psaumes qu'on a l'habitude de lire, qui nous disent leur état, leurs problèmes, leur cri à Dieu, et Dieu, comment il les a relevés et qu'il a repris leur place d'avant. On s'attend à ça pour le relèvement, non? Ce psaume, il n'y a pas de ça. On ne voit pas le relèvement dans ce psaume. Ce psaume, s'il y a eu le relèvement, il aurait été conçu, écrit, au moment où il est revenu au temple de Dieu pour le louer comme avant. Mais on a l'impression ici qu'il ne s'est pas du tout relevé comme nous on l'entend, comme nous on le sous-entend. Il a été composé dans l'exil, là où il était. Et on ne voit pas un relèvement tel que nous, on a l'habitude de le concevoir, de le voir, de s'y attendre à ce relèvement. L'attention, par contre, elle est détournée du présent et du passé et elle va tourner vers l'avenir et anticiper la restauration de cette expérience. C'est la seule chose qu'on comprend dans ce psaume. Le psalmiste s'est relevé sans être relevé, sans avoir vu l'accomplissement de sa prière, sans en avoir vu. C'est un petit peu à la manière d'Ésaïe quand il dit au chapitre 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Pas uniquement ceux qui se sont relevés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel relèvent leur force. Le psalmiste va s'exhorter lui-même à laisser sa prise de conscience du passé, son espoir lui donner l'avenir. En d'autres termes, le refrain qu'il est en train de dire, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» En français courant, il dit, « Mais pourquoi serais-je couché par terre en train de gémir dans la détresse ?» Espère en Dieu, lui, il me relèvera. Espère en Dieu. Et la foi permet de remercier avant d'expérimenter la réponse à la prière. La foi permet de remercier Dieu avant d'expérimenter la réponse à la prière. Louer Dieu au milieu de nos difficultés les transforme, ou plutôt nous transforme, pendant que nous sommes encore dans la difficulté. Et ainsi le psalmiste s'exprime. Et au lieu de se ressasser sa misère et de toujours répéter à Dieu sa misère et de crier vers lui, il va trouver un autre souffle à sa vie. Et il va dire, je le louerai encore par trois fois. Je le louerai encore. Même si je ne vois pas mon Dieu, même si je ne l'entends pas, même si je ne vois pas encore l'accomplissement, je le louerai encore. Je le louerai encore. Ça me rappelle et ça doit nous rappeler quelque chose. Notre Seigneur sur la croix. Notre Seigneur sur la croix avant, à Gethsémané, avant d'être crucifié, combien par trois fois il a prié à Dieu tout en lui disant, non pas, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux que ta volonté soit faite. Pourquoi je vous ai affiché ce passage? Parce que il est vrai qu'on a l'habitude d'être enseigné et de dire, de prier, de crier à Dieu pour qu'il nous libère, pour qu'il nous apporte pas uniquement la consolation, mais qu'il nous rétablisse. Qu'on ne souffre plus dans nos misères. Et il est vrai, et je ne le nie pas, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour le rétablissement. Mais je vais ouvrir une parenthèse, celle de notre Seigneur sur la croix. Qu'a-t-il dit? Il a demandé que cette coupe s'éloigne de lui. Il en voulait ne pas la voir. Mais il a eu le courage de dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, on se pose la question. Et si mes malheurs, si ce qui m'arrive était voulu par Dieu pour sa gloire, pour une raison ou pour une autre, oserais-je, au lieu de prier pour la délivrance, prier à Dieu et lui dire, non pas ma volonté, mais la tienne? Et à un autre endroit, en Jean, Jésus-Christ avait ajouté et avait dit, que ton nom soit glorifié. C'est un petit peu comme l'apôtre Paul. Lui, il a très bien compris. Avez-vous entendu une seule fois l'apôtre Paul se lamenter sur son état? Oui, une seule fois, jamais. Quand il a réuni les anciens d'Éphèse, avant de les quitter, il leur a dit la phrase suivante. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arriverait. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ce même apôtre Paul qui a dit, « J'ai appris à vivre dans l'abondance » et dans la faim, sans râler, sans crier à Dieu, sans lui demander secours pour lui. Toute sa vie était pour que la volonté de Dieu soit faite, y compris dans ses malheurs, y compris dans sa souffrance. Non pas ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté soit faite. Alors, frères et sœurs, oui, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour la délivrance, pour la guérison, pour que Dieu nous relève. Pas du tout. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire comme ce psalmiste, il est aussi bon d'être enseigné de la manière dont il a voulu nous enseigner. Déjà de puiser dans notre souvenir, même si on n'entend pas Dieu à côté de nous, le Seigneur sur la croix a crié vers Dieu, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Or Dieu ne l'a pas abandonné, on le sait. De puiser dans notre souvenir la bonté de Dieu. Et que même si on ne le sent pas à côté de nous, avoir cette foi quand même qu'il est là. Et peut-être de poser la question, « Et si ce qui m'arrive était pour la volonté de Dieu ?» Et si ce qui m'arrive pour la gloire de Dieu, est-ce que j'oserais, comme le psalmiste, dire, je le louerai encore, je le louerai encore, je le louerai encore, et qui résonne à lui-même, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu? Espère en Dieu, je le louerai encore. Dire comme l'apôtre Paul, je ne fais aucun état de moi-même. J'ai appris à vivre dans l'abondance ou dans la faim. Et cette parole du Christ que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Où est notre Dieu? Peut-être on s'était posé la question un jour, où est notre Dieu? Peut-être dans notre malheur, dans ce qui nous accable, on s'est posé un jour cette question. Où est notre Dieu? Où es-tu mon Dieu? Pourquoi ne viens-tu pas à mon secours? Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi tu ne m'entends pas? Pourquoi tu m'as oublié? Je vous propose de réfléchir à ce psaume, à l'enseignement qu'il veut nous donner ce psaume, et de dire à nous-mêmes, aujourd'hui, le langage du 21e siècle, au langage des premiers siècles, on parlait à notre âme. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Et je ne peux pas ne pas oublier ce verset du psaume 37. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ça ne veut pas dire ne prie pas à l'Éternel. Non. Ça veut dire ne râle pas. Ne râle pas devant Dieu. Ne dis pas, oui, pourquoi tu m'as oublié, ainsi de suite, patati, patata, regarde tout ce qu'il m'arrive. Mais regarde, mais où est-ce que tu es? Mais quand est-ce que tu vas intervenir? Mais j'en peux plus, pire que Job. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et le sommet, le sommant, la parole de notre Seigneur, que ta volonté soit faite et non pas la nôtre. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Oui, Seigneur, nous reconnaissons devant toi notre nature humaine et nous la confessons. Seigneur, nous tous, Seigneur, on a toujours envie d'être débarrassés de nos malheurs, de voir que tu réponds directement à nos prières, à nos désirs et bien des fois à notre volonté. Seigneur, pardonne-nous cela. Seigneur, apprends-nous aujourd'hui à savoir dire que ta volonté soit faite et non pas la nôtre, et que ton nom soit glorifié quoi qu'il arrive. Avant de passer à la Sainte Cène, on va lire un passage qu'on a l'habitude toujours de lire en Corinthiens. Ce n'est pas par habitude, c'est parce qu'il résume la signification de la Sainte Cène, ce qu'elle représente pour nous. L'apôtre Paul a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » l'alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En annonçant sa mort, on annonce son amour aussi pour nous. Ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé pour nous. Et l'apôtre Paul ajoute, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et boive la coupe. Mange le pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. » Comme on le répète, ces paroles ne sont pas là pour nous faire fuir, pour dire « Seigneur, je ne suis pas digne, je vais prendre la fuite ». Non, Ces paroles sont là pour nous rappeler qu'on doit être en règle devant Dieu avant de partager ce corps, ce pain ensemble et de boire cette coupe ensemble. Et comme le dit l'apôtre Paul, mieux que nous tous, que chacun s'éprouve soi-même et qu'il s'approche après pour partager ce pain et cette coupe avec nous. Donc prenons chacun un moment de silence devant Dieu. Pas pour fuir, pas pour avoir peur, mais que notre vie devant Dieu soit en règle. S'il y a quelque chose qui ne va pas, de lui demander pardon, et qu'après, on puisse tous s'approcher, tous ceux qui souhaitent, et qu'on le partage ensemble. Prenez quelques moments de silence devant Dieu.